Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les deux premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Devenir triathlète, épisode de jeudi où j'ai toujours mon co-animateur à mes côtés, Olivier de Scooter. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et notre invité de la semaine, Stéphane Leca. Salut Stéphane.
Bonjour.
Je voudrais pas paraître mal poli, mais on a beaucoup parlé de toi, de ta carrière de sportif de haut niveau. Passons maintenant à ta carrière d'entraîneur. Déjà, comment est-ce que tu opères le switch entre nageur vers entraîneur, surtout à une époque où, si j'ai bien compris, début des années 2000, la natation en eau libre ne connaissait pas l'essor qu'elle connaît actuellement, surtout au niveau de la Fédération Française. C'était pas super encadré, il n'y avait pas énormément de nageurs encore qui jouaient dans cette cour.
Je l'ai fait parce que je passe le professorat de sport en 2002, que je l'obtiens après beaucoup de boulot.
31 ans, c'est ça ?
Ouais, après une reprise de mes études où j'ai beaucoup travaillé pour réussir à ce concours. Ça a été une longue distance, ça aussi. Et donc, je l'obtiens. Le DTN de l'époque, Claude Fauquet, me dit: écoute Stéphane, je vais te nommer avec un autre entraîneur à l'INSEP en tant qu'entraîneur, mais piscine, bassin quoi en fait. Et j'ai eu un nageur de longue distance qui a fait, je sais pas, Lyon, qui a fait 6e, c'était Emmanuel Poissier, et qui a fait une magnifique course en fait au championnat du monde de Barcelone. Et mais j'ai commencé une carrière en fait, voilà, d'abord en natation course, et puis je me suis écarté de l'Oli parce que je trouvais pas non plus ma place en tant que cadre dans l'équipe de France. C'est la première expérience où j'ai compris que ça allait pas être un long fleuve tranquille en fait, et qu'il allait falloir faire sa place, même avec un passé d'athlète de haut niveau. Surtout, j'ai envie de dire, j'ai pas été le bienvenu en fait.
Ce qui est impressionnant, parce que t'avais quand même plus rien à prouver.
Ben, en fait, j'avais tout à prouver en tant que cadre, en tant que coach.
Ouais, en tant que cadre, mais ancien athlète de haut niveau, tu t'es entraîné tout seul, donc je veux dire...
Ouais, mais les gens, ils... Ouais, mais en fait, ils l'ont pas compris comme ça, et donc, en fait, j'étais plutôt, en fait, une crainte qu'autre chose, donc, en fait, j'ai vite compris ça, et j'ai quitté, en fait, le monde de l'Olympe pour me centrer uniquement sur le monde du bassin, et j'ai eu la chance de coacher avec un collègue, Maliam Etela, qui a fait vice-champion olympique du 50 crawl à Athènes.
Je connais pas, qui se prépare pour une petite traversée d'un lac, il paraît, mais...
C'est ça.
Le lac Titicaca, si je ne m'abuse.
Oh, c'est ça, magnifique expérience. Et donc, j'ai pas eu qu'elle. Hein. Il y a eu Fabien Horta, en fait, qui a fait les Jeux à 18 ans sur 4x2, qui a été finaliste. On a eu d'autres nageurs, en fait, qui ont fait les Euro Junior, qui ont été médaillés. Donc, c'était une belle expérience. Et moi, ça m'a permis, en fait, d'apprendre ce métier-là. Et je l'ai fait pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai voulu aller voir ce qui se passait en région. Donc, j'étais entraîneur national et j'ai demandé à passer cadre régional. Donc, même chose, le DTN de l'époque.
Complètement à l'inverse, en général, de ce que font les gens, non?
C'est ce que m'a dit Claude Fauquet, le DTN à l'époque. Il m'a dit: Stéphane, je comprends pas. En fait, tout le monde rêve d'être entraîneur national. Et toi, en fait, t'es entraîneur national et tu veux aller en région. Elle me dit: ça se passe jamais comme ça. Et j'ai dit: ben oui, enfin, vous me connaissez. Généralement, je fais pas comme tout le monde. Et je lui dis, puis pour moi, c'était important de voir comment ça se passait en région, parce que je considère que c'est extrêmement important d'avoir un feedback en fait, et de pour bien comprendre nos niveaux, faut savoir aussi comment ça se passe en fait sur l'échelle en fait, on va dire rurale. Et j'avais envie en fait de vivre ça et puis de sortir un peu du haut niveau. Et donc il m'a dit: ben, prends 15 jours pour réfléchir et reviens me voir. Donc 15 jours après, ça n'a pas changé. Et donc j'ai fait 7 ans dans ma région. En plus, en Picardie, où je suis allé en fait dans des villes comme Albert, comme d'autres villes où j'étais content d'y aller, parce que je voyais vraiment les problématiques qu'avaient les clubs dans leur ville en fait, dans leur petite ville, dans leur village en fait, pour savoir comment on faisait pour nager. On a construit les choses, et puis moi j'ai appris plein de choses sur l'aspect politique, c'est-à-dire la gestion avec les collectivités, et puis les élus sportifs, les élus locaux, les élus politiques, et c'était très très enrichissant, et aujourd'hui ça me sert énormément.
Alors, est-ce que tu veux dire que du coup le fait que quand tu es arrivé, bien que tu venais justement du haut niveau, donc tu étais déjà passé par le sérail, on t'a pas fait confiance tout de suite, tu faisais peur en fait, et du coup tu t'es dit: il faut peut-être que je retourne à la base de la natation, à la base de justement ces champions qui ils arrivent pas pour apprendre à nager à l'INSEP quoi, ils viennent justement des régions pour monter à l'INSEP ou au CREPS ou autre pour les Français et monter vers le plus haut niveau, c'est ça, non?
Je me le suis pas dit comme ça, mais c'est sûr qu'en fait il y a eu une remise en cause aussi, et c'était important pour moi en fait de quitter le haut niveau. J'adore la performance, j'adore la compète, j'adore gagner, j'adore le podium, c'est en moi, c'est ancré, mais Voilà, j'avais envie aussi en fait de m'enrichir en fait d'une manière différente pour mieux revenir. Sans doute, c'était peut-être pas conscient, mais dans ma tête, je savais que je reviendrais. Enfin, en tout cas, j'essaierai de revenir. Et d'ailleurs, en fait, deux fois, on m'a proposé de revenir en fait sur une échelle nationale, en fait, dans l'Olympe d'ailleurs, et j'ai refusé parce que pour moi, le projet n'avait pas de sens. Et j'y suis revenu uniquement parce que Lionel Horter, qui était devenu DTN à cette époque-là, en 2013, m'a dit bon, j'aimerais que tu viennes. Et je lui dis ok. Le budget de l'Olympe, c'est quoi? C'était pas grand-chose. Et je lui dis est-ce que si je gagne plus de médailles, j'aurai plus de budget? Il m'a dit oui, bien sûr. Et je dis bah ça m'intéresse. Et donc j'y suis allé.
Ça, c'était finalement ton renouveau vers le haut niveau, donc 2013, c'est ça?
Ouais, c'est ça en fait. J'arrive et voilà, je me lance à fond dans la mission. Mais là encore, hein, j'étais pas le bienvenu. C'était pas gagné. Hein. Il y a des gens qui étaient très contents de me voir. Il y a des gens en fait qui, au bout d'une semaine, étaient beaucoup moins contents de me voir.
Qui d'ailleurs, enfin qui, je veux pas de nom,
Non, mais
quoi, des gens sur qui tu remettais en cause le travail ou des gens à qui
bah,
justement.
C'est-à-dire que moi, en fait, j'avais pas la même stratégie qu'avant. Donc, en fait, ils avaient appris des habitudes et c'est normal. Et lorsque vous arrivez et que vous dites plutôt que d'aller en stage au mois de décembre en Nouvelle-Calédonie, vous allez aller à Fourmeux, ça peut aussi poser problème. Donc voilà, et puis quand vous dites ben avant vous aviez un statut et aujourd'hui en fait chaque année en fait il n'y a plus de statut, en fait chaque année au mois de septembre tout est remis à zéro, ben ça fait pas forcément plaisir. Mais moi je dis souvent en fait bienveillance mais sans complaisance, et donc ben c'est ce que j'essayais en fait dès le début de mettre en place. Et ça n'a pas été toujours facile, mais sauf que moi, ma mission, en fait, c'était d'être performant. Je veux dire, on est quand même une nation forte, avec des moyens importants, je trouve, même si on dit qu'il n'y a pas assez d'argent dans le sport. Moi, je dis qu'il y en a assez. Après, comment il est dispatché, c'est pas mon ressort, mais c'est une autre question. Mais la responsabilité de la France, lorsqu'on se présente sur une compétition internationale, c'est d'exceller. Et donc, en fait, ma mission, c'était celle-ci.
Ce qui est une bonne mission, quand même.
Alors, une mission sympathique, elle est encore d'autant plus sympathique quand elle est réussie.
Tu parlais des médailles, du coup, pour augmenter le budget. Alors, finalement, ce budget, il a augmenté, du coup?
Ouais, il a explosé. Avec toutes les médailles, maintenant, il a explosé.
Puis j'ai commencé en 2013, on est en 2021, il a été multiplié quasiment par deux.
Bah, bon boulot, bravo.
On a plus de nageurs au niveau aussi, on a plus de cadres. Quand je parle du budget, c'est pas seulement le niveau, c'est aussi le développement. On a beaucoup plus de courses pour faire nager plus de monde. Puis l'Olive, en fait, connaît un essor extraordinaire. En 2013, il y avait 3 000 nageurs par an qui faisaient l'Olive. Aujourd'hui, il y en a plus de 30 000. Absolument plus rien à voir. Donc, c'est aussi logique par rapport à ça. Mais encore fallait.
Donc, finalement, ton budget, il a pas si augmenté que ça. Parce que si le nombre de participants il était multiplié par 10, ton budget, il aurait dû faire fois 20.
Ouais, enfin, mais il a augmenté. Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui était important pour moi d'augmenter le budget. Ce que je vous souhaitais, c'est que on puisse faire des actions avec l'ensemble des personnes en fait qui s'investissaient dans cette discipline. Et je parle pas seulement du haut niveau. Il fallait leur proposer en fait des produits en fait qui étaient cohérents par rapport à ce qu'on souhaitait en fait développer. Donc il y a le haut niveau, il y a les médailles olympiques, il y a les médailles Champions, Champions d'Europe, et puis il y a aussi en fait capable en fait de faire une course. Il y a plus de 3 000 personnes qui participent parce que c'est une belle étape, c'est sympa. Et puis voilà quoi. Donc moi mon rôle en fait c'est de faire pratiquer du sport, hein, et puis l'eau libre.
Tiens, j'ai une question toute bête. Est-ce que justement la nage en eau glacée fait partie de cette branche de la Fédération française de natation?
Oui, et du département Olive. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'ai vu des gens, j'avais des potes en fait étrangers qui nageaient de plus en plus dans l'eau glacée. J'ai dit au DTN et au président, j'ai dit, il faut le faire ça. Je dis parce que sinon, ça va nous passer entre les mains. Et puis au début, j'ai eu des gens qui n'étaient pas trop d'accord. Et puis ça a changé de direction. Et là, en fait, ils m'ont dit banco et ils ont bien fait. Et je suis convaincu, là, on a eu un coup d'arrêt avec la pandémie. Et je suis convaincu qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont s'y mettre. Alors c'est une discipline quand même singulière et dangereuse. Il faut être préparé. Mais il y a de plus en plus de personnes en fait, qui nagent en maillot de bain dans de l'eau à zéro, entre 0 et 5 degrés.
Il y a un effet de mode aussi, non, autour de
oui.
Enfin, voilà, la méthode Wim Hof
bien
aussi,
sûr.
On entend beaucoup parler en ce moment.
Oui, bien sûr, la méthode Wim Hof, et puis en fait, se prouver en fait, qu'on a 50 ans, qu'on est encore capable de faire des choses en fait, exceptionnelles, et puis se donner des challenges dans la vie. Et puis en fait, il y a un côté santé et nature en fait, important. Je ne sais pas, il y a des études en fait, médicales qui ont prouvé que on augmentait ses défenses immunitaires quand on nageait en fait dans de l'eau glacée, donc bon bah c'est pas inintéressant non plus. Et puis c'est un sport porté. La natation, en fait, on se baisse beaucoup moins que lorsqu'on fait de la course à pied. C'est, bon, la course à pied est un sport magnifique, mais la natation, pour ceux qui ont des genoux un peu en vrac comme moi, c'est quand même plus sympa.
Petite question par curiosité. Tu parles de blessures. Est-ce que dans ta carrière de nageur, tu as fait face à des blessures ?
J'ai eu quelques tendinites, mais rien d'alarmant. Par contre, j'ai eu un arrachement ligamentaire au niveau de l'acromio, oui, okay, en fin de carrière, mais qui est lié aussi parce que j'avais repris mes études et que j'avais plus le temps de m'étirer, j'avais plus le temps de faire toutes les mesures prophylactiques, donc j'étais à 200 à l'heure et forcément à un moment donné ça paye.
Bon, donc vous avez compris, ne sautez pas vos séances d'étirement.
Ah bah non, jamais.
Alors pour revenir un petit peu justement sur ta carrière d'entraîneur, 2013, donc tu rejoins le groupe Au Libre en tant que...
En tant que directeur de la discipline, donc même pas entraîneur.
Directeur, donc DTN, enfin juste pour les Français.
C'est... Ouais, en fait moi mon rôle en fait c'est pas d'entraîner, moi mon rôle en fait c'est de faire faire. C'est pas péjoratif, c'est-à-dire en fait c'est m'entourer des personnes en fait compétentes qui savent s'inscrire dans un projet de groupe de façon à optimiser et rendre possible des choses que l'on rêve.
Toi finalement t'entraînes plus là, tu délègue à des entraîneurs.
Oui. Alors j'entraîne parfois lorsque je suis en stage en équipe de France parce que j'ai Philippe Lucas qui est l'un des entraîneurs nationaux de l'équipe de France qui me dit Stéphane, tu vas pas rester là à nous regarder. Donc et puis moi c'est vrai que j'aime ça, mais quand je suis directeur, mais quand je suis en stage avec Philippe, c'est pas moi qui fais les séances d'entraînement. C'est Philippe qui fait les séances et puis moi, en fait, ben, je lui file un coup de main, quoi. Mais chacun a sa place, en fait. Donc voilà, je le fais de temps en temps, mais c'est pas moi, en fait. Moi, je suis le directeur, j'organise des choses et si j'ai pas le temps, en fait, d'entraîner, en fait, je m'occupe, en fait, de ce que je dois faire de façon à ce que tout le monde puisse bien faire son travail.
Très belle conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de revenir demain sur la suite, c'est-à-dire comment est-ce que la discipline de natation en eau libre a connu un certain essor depuis les années 2010, 13, 15, 20, et puis qu'est-ce que tu nous prépares pour 2021 ? Tu nous as dit dans l'épisode de mardi que vous prépariez des petits jeunes pour aller à Tokyo, parce qu'évidemment Tokyo va avoir lieu, maintenant on le sait. Donc comment est-ce qu'on repère des petits jeunes, comment est-ce qu'on les prépare, et puis comment on prépare la suite aussi pour ces petits jeunes si jamais ils sont médaillés ou pas.
Parfait.
Bah, moi j'ai pas le choix, donc ça me va.
Super, et à demain.
À demain.
À demain.
Vous avez apprécié nos échanges, alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!